Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Tsigeshi Ferao. Cette semaine, Escale s'intéresse aux forêts. La semaine dernière se terminait à New York la 11e session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Pendant 15 jours, experts et ministres se sont rencontrés afin de statuer sur les progrès réalisés en matière de gestion durable et d'aménagement international concernant les forêts pour l'après 2015. Malgré de nombreux efforts qui ont permis une réduction de la déforestation à travers le monde depuis 5 à 10 ans, le problème persiste, surtout dans les zones tropicales d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est et d'Afrique centrale. S'ajoute à cela la perte des forêts naturelles, souvent remplacées par des plantations comme mesure compensatoire. Benjamin Singer, expert forestier au Forum des Nations Unies sur les forêts, revient sur les causes principales de déforestation.
On a des études assez récentes qui montrent que les causes principales de la déforestation actuellement sont l'expansion de l'usage des sols pour la production de certaines commodités. Alors ça peut être le soja ou ça peut être les pâturages pour le bœuf, ça peut aussi être l'huile de palme. C'est des usages du sol qui sont en train de se répandre très rapidement dans les mêmes zones qui traditionnellement sont occupées par les forêts.
Vous avez parlé de déforestation, nous avons parlé donc des grandes exploitations agricoles comme l'une des causes. Quelles sont les autres causes?
Il y a beaucoup de causes à la déforestation, bien sûr. Les petits exploitants jouent un rôle aussi qui peut être néfaste mais aussi positif sur le couvert forestier. Mais c'est vrai que quantitativement, la cause principale, c'est bien les grandes exploitations agricoles.
Comment compenser ou en tout cas comment tenter d'arrêter ce phénomène d'expansion des grandes surfaces agricoles?
On ne veut pas forcément mettre le doigt sur uniquement une cause de la déforestation, même si c'est une cause importante. Il faut regarder les causes dans leur ensemble et l'une des solutions que nous, on essaye d'apporter, c'est la coopération internationale, tout simplement, à travers tous les gouvernements qui aussi s'inquiètent. Les gouvernements des pays tropicaux où on observe une déforestation importante sont aussi très inquiètes de voir la déforestation, y compris sur leur territoire. Donc, l'une des solutions, justement, c'est d'arriver à des accords entre gouvernements, sous l'égide de l'ONU, et en particulier dans le Forum des Nations Unies sur les forêts, pour justement limiter la déforestation par divers moyens. Ça peut être des incitations financière, fiscalité, etc. Ça peut être des accords contraignants au niveau national, ça peut être des changements de législation. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de réduire la déforestation.
À Madagascar, la situation est devenue tellement grave qu'on ne l'appelle plus l'île verte, mais plutôt l'île rouge, à cause de la déforestation massive et de la dégradation des sols sur place. C'est ce qu'indique le ministre de l'Environnement malgache, Ralava Bebo Arimisa, présent lors du forum.
À Madagascar, comme vous le savez, c'est un pays qui était appelé l'île verte avant et que maintenant ça s'appelle l'île rouge. C'est pour vous dire que la déforestation à Madagascar, c'est vraiment dans un état critique et que justement c'est la priorité du gouvernement de faire une politique de déforestation à Madagascar.
Quelle a été la cause majeure de cette dégradation des sols, de cette déforestation?
Donc la cause majeure, c'est surtout par rapport aux traditions du pays qui pratique le TAF, donc c'est tout ce qui est culture sur le pluie, qui a eu un impact majeur sur la forêt à Madagascar. Et en même temps aussi, il y a eu les pressions dues à la pauvreté à Madagascar parce que de plus en plus de gens allaient dans la forêt pour les couper, pour pas utiliser en bois de chauffe.
Et en quoi ce forum est important pour vous? Qu'en attendez-vous?
Ben, ce forum est important pour nous déjà pour voir un peu ce que font les autres pays, mais en même temps aussi pour essayer d'aller avec les autres pays pour former une politique au niveau international et pour justement voir un peu sur la partie, par exemple, sur les fonds forestiers et sur tout ce qui est gouvernance forestière mondiale.
Est-ce qu'il y a, par exemple, au niveau des pays de la SADC, une politique commune concernant les forêts ou pas du tout?
Ben, il y a eu des débuts de discussion, il y a des groupes de travail donc, au sein du groupe Afrique et que ça, je trouve que c'est vraiment pas mal et qu'on essaie de voir aussi quel type de financement, quel type de mécanisme pérenne on peut mettre en place, notamment dans la région de l'Afrique.
Auprès de mon âme, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Pour autant, toutes les zones tropicales ne subissent pas le même sort. Ainsi, au Gabon, qui fait partie du bassin forestier d'Afrique centrale, une nature favorable a facilité la tâche des autorités, selon André-Jules Madingou, conseiller auprès du ministère de la Forêt et de l'Environnement du Gabon.
De manière globale, nous assistons quand même à une baisse de la dégradation des forêts. Pour le Gabon, la dégradation des forêts n'est pas tellement un sujet parce qu'au jour d'aujourd'hui, le processus d'aménagement a été généralisé. Nous sommes parmi ceux qui ont le pourcentage de forêts les plus élevés, sur 83% de forêts. Toutes les forêts aménagées au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour de 90% des forêts concédées aménagées.
Le Gabon exporte du bois précieux ?
En 2009, le Gabon, par son président, a pris la décision d'interdire l'exportation du bois en grume. Ça veut dire que le Gabon, au jour d'aujourd'hui, n'exporte que du bois transformé. Pour l'instant, le processus de reboisement fait partie des règles. C'est-à-dire que tout exploitant, en respectant les règles, doit reboiser quand il sort du bois. Malheureusement, nous constatons que le reboisement déjà coûte très cher et il y a un schéma directeur de reboisement qu'on est en train de mettre en place et rechercher les financements nécessaires et relatifs.
Est-ce que la population gabonaise utilise le bois aussi comme moyen de combustion, notamment pour la nourriture ?
La plus grande population du Gabon se trouve dans les villes. Et dans les villes, les gens utilisent et le gaz et le bois. Ça veut dire que, sans se tromper, on est à une grande utilisation du bois en tant que bois énergie et bois de chauffe.
Est-ce que cela, justement, ne cause pas un problème ?
Cela ne pose pas un problème parce que le Gabon a eu cette chance que la nature lui soit très favorable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on enlève un bois, il y en a deux qui poussent derrière. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait s'asseoir. C'est pourquoi le gouvernement, justement, a pris la mesure d'aller vers le reboisement, vers la gestion durable de ces forêts et a mis en place même les forêts communautaires qui s'adressent directement aux populations rurales pour permettre à ces populations de pouvoir gérer elles-mêmes des ressources forestières qui sont mises à leur disposition.
Comme un arbre dans la ville.
Dans les zones désertiques, les défis sont particulièrement difficiles et les forêts y ont un rôle quasi vital. Dans un pays comme le Niger, plus de 90% de la population utilise le bois comme source d'énergie, comme l'explique Ibro Adamou, directeur du bureau de l'environnement des eaux et forêts au Niger.
Au Niger, comme d'ailleurs dans la plupart des pays de la zone sahélienne, presque l'Afrique de l'Ouest entière, les ressources forestières ont un rôle presque vital dans la vie des populations parce que elles fournissent du bois et énergie. Et plus de 90% de la population utilise essentiellement le bois comme source d'énergie domestique. Les ressources forestières fournissent également des compléments alimentaires très importants aux populations, et particulièrement en cas de crise alimentaire. Les crises sont récurrentes, vous savez, au Sahel. En temps de crise, effectivement, les populations se rabattent sur les compléments alimentaires tirés des ressources forestières. Mais également, quand on prend sur le plan de la santé, plusieurs études concordent pour dire que plus de 80% de la population au Niger a fait recours aux produits de la pharmacopée traditionnelle. Donc, toujours ici des ressources forestières. Sur tout un autre plan, quand nous connaissons le rôle que les arbres et les forêts jouent dans la protection des eaux, dans la protection des terres de culture, donc la dégradation des ressources forestières au Niger et au Sahel en général est synonyme de beaucoup d'effets néfastes sur l'économie du pays et sur la vie quotidienne des populations.
Vous n'avez pas mentionné le fait que les arbres empêche aussi peut-être la désertification ?
Oui, j'ai parlé effectivement de la question de protection des sols. Aussi, les arbres contribuent à atténuer, non seulement à arrêter, à freiner et l'avancée du désert, mais bon, également à améliorer la résilience des populations vis-à-vis des effets de la désertification.
Quel est l'état des forêts au Niger ?
L'état des forêts au Niger, c'est relatif. Vous savez, le Niger, c'est un pays à faible couvert forestier, un pays de la zone aride. Mais malgré tout, nous savons qu'on n'a pas la forêt dense à l'image des pays de l'Afrique centrale ou de l'Amazonie. Mais le peu de ressources forestières des zones arides que nous avons sont tellement importantes pour les populations que nous nous devons effectivement de les protéger. Alors, les ressources forestières dans la zone sahélienne, nous avons trouvé une alternative à travers le développement des arbres hors forêt, notamment à travers les activités de l'agroforesterie. Donc, quand vous prenez un pays comme le Niger, les études de travaux récents ont démontré que sur 20 ans, on a réalisé 5 millions d'hectares d'agroforesterie, soit une moyenne de 250 000 hectares par an d'agroforesterie. Je pense que c'est énorme.
Et en matière de reboisement, quelle est la politique du gouvernement? Est-ce que pour chaque arbre utilisé comme combustible, il est remplacé?
Le gouvernement du Niger, en 2013, a lancé une initiative très importante intitulée « Programme Un village, un bois ». Effectivement, qui consiste à s'appuyer sur les communes pour faire des reboisements localisés mais maîtrisés sous la maîtrise des populations dans le cadre effectivement de la lutte contre le recul de couvert forestier.
Arbre mon ami, tu nous fais respirer, tu nous as réchauffé, tu nous as transporté.
Les autorités gouvernementales sont souvent dépassées par l'étendue du problème, mais elles essaient tant bien que mal d'instaurer des mesures dissuasives afin de mieux protéger les forêts. Ainsi, Madagascar a une panoplie d'initiatives chargées de décourager ceux qui tentent de s'enrichir en poursuivant le trafic de bois précieux. Ralava Bebora Imissa, ministre malgache de l'Environnement.
Effectivement, il y a le fléau de trafic de bois de rose. On a pris pas mal de mesures ces derniers temps. Donc là, on vient juste de finaliser au niveau du gouvernement donc, la loi sur la mise en place d'un tribunal spécial contre le trafic de bois de rose. Ça va être présenté donc, à la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Il y a aussi actuellement donc, un projet qui est en cours, tout ce qui est inventaire, marquage et sécurisation des bois saisis, un projet qui est financé par la Banque mondiale donc, et qui vise justement à atténuer ce genre de trafic, sans parler aussi des collaborations étroites avec les autres pays amis et notamment donc, des organismes comme Interpol.
Ça, c'est au niveau de la théorie. Au niveau pratique, pensez-vous qu'il est vraiment faisable de pouvoir freiner ce type de fléau?
Ben, ça, c'est au niveau théorie, mais c'est la théorie qui va rejoindre la pratique. C'est-à-dire que la mise en place du tribunal, c'est justement pour éviter que ceux qui sont donc arrêtés dans le cadre de ce genre de trafic puissent aller dans un tribunal spécifique par rapport à ça. Et aussi, le fait de faire des inventaires, de faire des sécurisations de ces bois-là nous empêche d'avoir des stocks élastiques parce qu'il y a des bois saisis, mais qui sont quand même revendus, donc il y a des nouvelles coupes qui s'opèrent dans les aires protégées, par exemple. Et puis ça nous permet justement de maîtriser la filière et de faire en sorte à ce que, au niveau pratique, comme vous le dites, il n'y a plus ce genre de fléau.
Quelles sont les peines encourues pour les gens qui sont arrêtés dans ce type de trafic?
Ben, y a pas mal de peines, notamment... 20 ans de prison, deux fois plus le prix du bien saisi. Donc il y a quand même pas mal de peines qui sont assez sévères et qu'il est même question de mettre en place plus tard une sorte de prison de haute sûreté pour ceux qui font du trafic de bois de rose. Mais on espère aussi étendre ce tribunal spécial sur tout ce qui est trafic des ressources naturelles en général.
Comment encourager les gouvernements à protéger leurs forêts et assurer un dialogue entre les différentes parties concernées? Benjamin Singer, du Forum des Nations Unies sur les forêts.
Les autorités gouvernementales n'ont pas toujours justement cette autorité d'influencer ce qui se passe sur le terrain. Donc de plus en plus, c'est vrai qu'on parle de gouvernance au lieu de politique publique pour prendre en compte le fait que ce qui se passe sur le terrain, c'est le résultat d'interactions entre une multiplicité d'acteurs. Et ça peut être des acteurs gouvernementaux, publics, mais c'est beaucoup d'acteurs privés, des acteurs non gouvernementaux. Dans le Forum des Nations Unies sur les forêts, on discute justement de possibilités pour impliquer de manière plus poussée ces acteurs non gouvernementaux, le secteur privé, mais aussi les communautés, les petits exploitants, le milieu académique également.
Est-ce que ce n'est pas un problème en soi d'avoir justement trop d'acteurs, trop de partenaires?
Bien sûr. En économie, on parle de coûts de transaction. Dans ce cas-là, oui, les coûts de transaction sont énormes. Mais on voit ça au sein de l'ONU, dès qu'il y a un grand nombre d'acteurs, il y a beaucoup de coûts de transaction pour trouver un accord. Mais en même temps, je pense que c'est un pas par lequel il faut... une étape par laquelle on doit tous passer, ne serait-ce que pour augmenter la légitimité des accords qui sont passés. Parce que s'ils sont passés uniquement entre gouvernements, entre acteurs publics, alors que le secteur privé y est opposé, on risque d'avoir un impact moindre sur le terrain.
Et c'est sur ces mots que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine aux forêts. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.